dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est comment est-ce que le monde, le reste du monde, se prépare à accueillir le résultat de l'élection américaine et le potentiel risque Trump, comme on l'appelle. Nous en parlons avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, avec nous en visioconférence. Bonsoir Gilles, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps, Gilles, à travailler la question politique à travers la dynamique des sondages aux États-Unis. C'est soit une passion, soit une nécessité. Dans les deux cas, c'est en tout cas le travail que vous avez effectué, Gilles. Quelles sont les dernières observations là que vous faites sur cette question de politique immédiate à travers notamment la dynamique des sondages, qui a connu quand même un mouvement de renversement depuis 15 jours, 3 semaines?
Oui, en fait, ce qui était assez frappant, c'est qu'on a eu une longue période de stabilité de l'avance de Kamala Harris. Quand on prend les grands agrégateurs de sondages, 538 ou Real Clear Politics, ou Nate Silver, on était en gros entre 2,5 et 3 points, ça pendant tout le mois de septembre et la première moitié d'octobre. Ce qui était d'ailleurs déjà une avance un peu faible pour Kamala Harris, quand on se souvient des 8 points d'avance qu'avait Biden à la même étape de la course en 2001. Et puis après, le premier jour, c'était le 19 octobre, l'avance de Kamala Harris est tombée en dessous de 2% et elle a continué graduellement et marginalement à s'effriter jusqu'à arriver à 1%. Et ce qui s'est passé au même moment, c'est un renversement des avances dans beaucoup d'états pivots. On a toujours une certaine résistance de Kamala Harris dans les états des Grands Lacs. En revanche, une poussée assez claire de Trump dans les états du Sud et dans les états de l'Ouest. Ce qui aboutissait au résultat tout simple et qui, à mon avis, expliquait la réaction de marché depuis une quinzaine de jours, qui était que sur la base des sondages, la probabilité la plus nette, c'était celle d'une victoire de Donald Trump, s'accentuant du fait que la plupart des acteurs de marché intègrent le fait que Biden avait une avance de 8 points dans les sondages plan national, une avance de 8 points le 3 novembre 2020 et qu'il a gagné par simplement 4 points.
Divisé par 2, si on... ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Ouais. Donc voilà, peut-être qu'entre-temps, la qualité des sondages s'est nettement améliorée, mais tout cela constitue un faisceau d'indices qui explique, à mon avis, la réaction de marché. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. Il y a une interview très intéressante à la Harvard Gazette de l'un des grands patrons des sondeurs américains qui avait été président de la commission justement qui s'était penché sur l'erreur de prédiction de 2020 et qui en gros concluait par « je n'en sais rien, moi pas plus que vous ». Donc voilà, on est dans cet état d'incertitude assez complet.
Est-ce qu'on a un peu plus de certitude sur l'autre bataille, qui est une bataille décisive aussi, qui est celle du Sénat, Gilles ?
Alors le Sénat, si on prend par exemple les prévisions de 538, qui est plutôt un bon track record, pas parfait, mais plutôt un bon track record dans la matière, pour eux, la messe est dite, 90% de probabilité d'une victoire sénatoriale. Ouais. Pour les Républicains. Et ça, on le sait depuis un moment que tout avantage, en fait, les Républicains en la matière. D'abord parce qu'on part déjà d'une majorité extrêmement fine d'un siège pour les démocrates. Deuxièmement, parce que l'un de ces démocrates, Manchin, était élu de Virginie occidentale, et c'était un peu une anomalie, c'est-à-dire que c'était un sénateur démocrate, avec d'ailleurs des vues parfois assez étranges pour son parti, mais élu par un État foncièrement républicain. Manchin prenant sa retraite, il est presque évident que la Virginie occidentale repasse du côté républicain. Et puis, dans d'autres anomalies, entre guillemets, par exemple dans des États montagneux de l'Ouest, et fondamentalement le simple fait arithmétique que, puisque le Sénat n'est pas renouvelé dans son ensemble, eh bien, cette fois-ci, ce sont surtout des sièges démocrates qui sont remis en jeu. Et donc, arithmétiquement, voilà, la probabilité de perte démocrate est plus importante que la probabilité de perte républicaine. Donc, que le Sénat passe du côté des Républicains, c'est probablement assez écrit. La question peut-être plus fondamentale, c'est celle de la Chambre, en tout cas d'un point de vue de marché. Parce que la Chambre des représentants, elle est vraiment centrale pour tout ce qui concerne les négociations budgétaires, qui, à mon avis, vont être un des grands éléments de différenciation en fait entre une présidence Harris et une présidence Trump. Il y a eu très très bon calcul fait par la Penn Wharton qui arrive au résultat suivant. Si c'est Trump et qu'il a les moyens d'appliquer sa politique, ce qui voudrait dire qu'il a une majorité à la Chambre des représentants, c'est 2 points de déficit budgétaire en plus tous les ans pendant 10 ans. Si c'est Harris, c'est seulement 0,5 points en plus. Dans aucun des cas, le déficit s'améliore, mais l'écart va de 1 à 4 entre les deux sur la question du déficit. Et pour ça, il faut vraiment que le président puisse contrôler la Chambre. Et ça, c'est moins évident. C'est moins évident parce que la course est plus ouverte. Il n'y a pas cet écart arithmétique entre sortants républicains et sortants démocrates. Il y a eu par ailleurs des redécoupages électoraux dans des États qui sont déjà assez favorables aux démocrates, par exemple dans l'État de New York. Donc même si Trump est élu, il n'est pas totalement évident qu'il puisse gagner la Chambre.
Ce que vous dites, Gilles, c'est que est-ce que le risque Trump est plus encadré qu'en 2016, quand il est arrivé par surprise? C'est-à-dire, vous dites, évidemment, la question est de savoir jusqu'où il aura les mains libres avec le Congrès. Même si l'ensemble du Congrès était rouge, vous dites que Trump n'a pas forcément la main sur l'ensemble du caucus républicain aujourd'hui et qu'il y a peut-être encore des gens dans la pièce républicaine qui resteraient des adultes, de ce point de vue-là, Gilles. Et puis, il y a quand même toujours la dimension commerciale et tarifaire. Où est-ce que le risque Trump peut être encadré selon vous, et où est-ce qu'il peut être un peu plus débridé, en revanche, que par rapport à 2016?
Ouais. Alors, sur la question budgétaire, là, la résistance du Congrès peut être très forte. Parce qu'effectivement, on va trouver dans ce qu'on appelle le caucus républicain des gens qui sont des républicains traditionnels, des républicains canal historique, entre guillemets, donc qui sont plutôt prudents en matière de finances publiques. On part déjà d'un déficit tendanciel entre 6 et 7% d'après le CBO. Ça, c'est la base. Donc, si on rajoute 2 points de plus, on est quand même là dans des choses qui sont quand même très, très hirsutes en termes de soutenabilité de la dette, donc on peut s'attendre à la résistance côté républicain, d'autant plus si Trump n'a pas de majorité républicaine à la Chambre. En revanche, il y a des éléments sur lesquels il a une capacité d'action quasiment totale. Et c'est la question de la guerre commerciale, puisqu'on l'a vu déjà lors de son premier mandat, il peut le faire par ce qu'on appelle des executive orders, donc il peut utiliser un arsenal qui lui est propre pour mettre en place ces tarifs. Même chose sur l'immigration, qui est un sujet qui est sous-discuté en Europe, mais qui est absolument central, à mon avis, pour toute la mécanique macroéconomique américaine dans les années qui vont venir. L'année dernière, on a probablement eu environ 3 millions d'arrivants aux États-Unis. Ça représente 2 points de main-d'œuvre en plus. On n'aurait jamais eu le ralentissement de l'inflation que l'on a connu depuis maintenant un an et demi, sans cet apport d'immigrants. Trump, aujourd'hui, sa position officielle, c'est non pas simplement l'arrêt des flux, c'est le renvoi, c'est l'expulsion massive des immigrants illégaux. Et là-dessus, il peut le faire, en grande partie en tout cas, par executive orders. Donc même s'il y a la résistance du côté du caucus républicain, sur ce type d'éléments, ça serait plus compliqué à mettre en œuvre, sauf à imaginer un système en gros d'arbitrage. Un système d'échange en fait entre la Chambre, une Chambre potentiellement républicaine, et Trump, parce que vous avez beaucoup de gens chez les Républicains qui vont être très inquiets d'une politique de renvoi massif des immigrés illégaux, parce qu'ils savent que certains secteurs de l'économie américaine ne peuvent pas fonctionner sans ces immigrants illégaux, et donc essaieraient en fait de...
Ah, petite déconnexion avec Gilles. On va voir si on peut retrouver Gilles. Il nous reste quelques minutes sur cette élection américaine, bien sûr, et la politique migratoire de Donald Trump, si elle était appliquée, qui poserait évidemment un certain nombre de questions pour la macroéconomie américaine spécifiquement, puisque 3 millions de migrants sont arrivés dans l'économie américaine l'an dernier et ont largement participé à augmenter l'offre de travail, à faire baisser l'inflation et à augmenter également une partie de la demande dans l'économie américaine. Gilles, on a été coupé sur la politique migratoire, le risque des exécution de la politique migratoire telle que la doctrine Trump la conçoit aujourd'hui. Le système des executive orders lui donne quand même un certain nombre de marges de manœuvre sur cette politique-là. Je voulais qu'on dise un mot aussi de la politique commerciale. Gilles, votre point étant de dire que pour l'Europe, le plus grand risque, c'est la politique tarifaire des États-Unis vis-à-vis de la Chine, pas forcément vis-à-vis de l'Europe elle-même.
Parce que les 10% de droits de douane, honnêtement, s'ils sont appliqués sur tout le monde, l'impact est assez limité parce que vous n'êtes pas en état de désavantage vis-à-vis de vos compétiteurs des pays tiers. Vous ne rentrez pas en compétition avec les Sud-Coréens ou avec les Mexicains sur le marché américain. Et donc la souffrance viendrait simplement du fait qu'il pourrait y avoir substitution par des producteurs domestiques américains, ce qui est difficile à mettre en œuvre à très court terme. Et puis par ailleurs, on pourrait imaginer que 10 points de droits de douane, ça s'absorbe assez facilement par une dépréciation, elle aussi finalement assez mesurée, du change. Perdre 10% sur l'euro-dollar, c'est gérable. En revanche, 60% de droits de douane sur la Chine, le risque là, c'est 1. Une baisse très forte de la demande chinoise avec un effet en retour sur les exportateurs européens, notamment allemands. L'autre risque, c'est que la réponse de Pékin, ce soit une dépréciation très forte de sa devise. Et donc là, un vrai désavantage compétitif entre nos producteurs et les producteurs chinois.
Dans une situation comme celle-là, Gilles, est-ce qu'on peut imaginer une Fed qui aurait la nécessité d'avoir un réglage peut-être plus dur de sa politique monétaire et face à cela, une BCE qui devrait se pousser à aller beaucoup plus loin peut-être dans l'accommodation? C'est quelque chose de possible? Pas sûr qu'on ait la réponse de Gilles Mouek. C'est l'interview maudite. Bon, ben c'est pas grave. Je crois qu'on va s'arrêter là avec Gilles pour ce soir. En attendant de toute façon le résultat de cette élection américaine, on aura largement l'occasion d'y revenir avec toutes les conséquences que ça implique, notamment pour les banques centrales. Je vous rappelle que la Fed sera l'une des premières banques centrales à réagir, en tout cas à devoir prendre une décision de politique monétaire dans le sillage de cette élection. La Fed qui rendra cette décision ce jeudi 7 novembre, quel que soit le résultat ou l'absence de résultat d'ailleurs de cette élection présidentielle américaine. C'était quand même Gilles Mouek avec nous, je le rappelle, chef économiste du groupe AXA, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart for Change.